Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 6 octobre 2014, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Chérubin Dorcy. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Morgane.
Au sommaire ce soir, le président du Kenya se rendra cette semaine devant la Cour pénale internationale. Une première dans l'histoire de l'institution.
En Centrafrique, les anti-Balaka réclament la démission de la présidente Catherine Samba-Panza.
Nous sommes rendus compte que les nouvelles autorités n'ont pas la vocation d'arriver rapidement à la fin de transition et d'aller aux élections.
Patrice Edouard Ngaïsena, coordonnateur national des anti-Balaka.
Face à l'épidémie d'Ebola, les leaders africains multiplient les appels à l'aide.
À Hong Kong, c'est le retour au calme après une semaine de manifestations.
Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission, mais d'abord, le journal.
Le président kényan Uhuru Kenyatta a temporairement transféré le pouvoir au vice-président William Ruto. Il a annoncé qu'il va répondre à la convocation de la Cour pénale internationale à La Haye. Nathalie Barge.
Uhuru Kenyatta fait face à 5 chefs d'accusation pour organisation présumée de la violence ethnique meurtrière qui avait suivi l'élection présidentielle de 2007 au Kenya. Plus de 1100 personnes ont été tuées et des centaines de milliers déplacées.
I urge my fellow citizens to accept and to understand my decision. I also urge our African brothers and sisters to stand with Kenya.
S'exprimant devant le Parlement ce lundi à Nairobi, le président kényan a déclaré qu'il respecterait la convocation du tribunal à comparaître mardi et mercredi pour une séance sur son statut. Pendant qu'il sera à La Haye, le vice-président kényan William Ruto occupera la présidence par intérim. Monsieur Ruto est lui-même cité à la CPI. Son procès a débuté l'an dernier. Il a plaidé non coupable. Le procès de M. Kenyatta a été reporté plusieurs fois. Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, disait alors que le gouvernement de Nairobi ne fournissait pas les documents demandés par son bureau.
Attaque à la roquette à Amchidé, dans l'extrême nord du Cameroun. Au moins 8 personnes ont été tuées d'après les forces de sécurité camerounaises citées par l'AFP. Le tir, attribué aux islamistes nigérians de Boko Haram, est parti de Banki, une ville nigériane contrôlée par les islamistes située de l'autre côté de la frontière. La roquette est tombée dans une rue où beaucoup de gens faisaient leurs achats, rapportés sous couvert d'anonymat, un agent de sécurité basé à Amchidé. Nous craignons une hausse du nombre de morts, a-t-il ajouté.
Des combattants du groupe islamiste Boko Haram ont décapité 7 personnes dans le nord-est du pays. C'est ce que rapportent des témoins cités par l'agence France Presse. L'attaque s'est déroulée à Ngambou, dans l'état de Borno. Dans la dernière vidéo du groupe islamiste, un homme présenté comme pilote de l'armée de l'air nigériane était décapité.
En République centrafricaine, la coordination nationale des anti-Balaka hausse le ton. Elle a réclamé la démission dans 48 heures de la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza. On fait le point avec Idriss Fall.
Pour la coordination nationale des anti-Balaka, l'actuelle présidente de la transition n'est plus à la hauteur des attentes des centrafricains. Autre raison évoquée, le présumé détournement d'une partie du don angolais, la demande de Mme Samba-Panza d'avoir comme sécurité rapprochée des troupes tchadiennes, le remplacement des représentants des anti-Balaka à la présidence et au ministère des Finances. Patrice Edouard Ngaïsona, coordinateur national des anti-Balaka.
Depuis l'accession de Mme Samba-Panza à la magistrature suprême de l'État centrafricain, je ne cesse de prôner la paix. Mais les cris des anti-Balaka ont été toujours balayés du revers de main. Je sens toujours frustré par les nouvelles autorités de la place. Et nous nous sommes rendus compte que les nouvelles autorités n'ont pas la vocation d'arriver rapidement à la fin de transition et d'aller aux élections. Unanimement, les responsables anti-Balaka ont demandé le départ en 48 heures de Mme Samba-Panza.
Les miliciens demandent aussi le retrait de leur représentant au sein du gouvernement Cameroun et menacent de passer à la vitesse supérieure. La présidence centrafricaine n'a pas encore réagi.
Signalons que dans l'est du Cameroun, selon l'AFP, 3 membres d'un groupe armé centrafricain ont été tués lors d'un accrochage avec des militaires camerounais à la frontière avec la Centrafrique.
Au Burundi, les rebelles ont revendiqué une nouvelle attaque contre l'armée près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Ils affirment avoir tué 6 soldats, bilan démenti par les militaires burundais qui affirment au contraire avoir tué un assaillant hier dimanche. Les rebelles en question font partie d'une aile dissidente des Forces nationales de libération, FNL, ex-rébellion Hutu, devenue partie légale d'opposition.
La Sierra Leone a réclamé davantage d'aide pour faire face à l'épidémie d'Ebola. L'Union africaine aussi a lancé un appel à l'aide, nous dit Bagassi Koura.
Le soutien qu'on nous apporte n'est pas adéquat. Il nous faut davantage d'aide, a déclaré le ministre sierra-léonais de l'Agriculture, James Cesse, lors d'une réunion de la FAO à Rome. S'il vous plaît, tendez-nous la main, à nous la Sierra Leone, mais aussi au Libéria et à la Guinée, les trois pays les plus touchés par l'Ebola, a plaidé M. Cesse. De son côté, l'Union africaine a réclamé ce lundi l'envoi de plus de personnel pour briser le cycle de l'Ebola lors d'une réunion de l'OCDE à Paris. Nkosazana Dlamini-Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, a déclaré que les ressources humaines et les infrastructures sont les bienvenues. Selon le dernier bilan de l'OMS, l'épidémie de fièvre Ebola a fait près de 3 500 morts en Afrique de l'Ouest.
L'armée somalienne et la force de l'Union africaine, AMISOM, ont repris dimanche le contrôle du port de Baraoué aux islamistes d'Al-Shabaab. Camille Grosdidier.
Baraoué, qui est situé à 240 km au sud de Mogadiscio, était aux mains des Chebab depuis 2008. Ce port permettait aux Chebab d'exporter du charbon de bois vers les pays du Golfe, un trafic estimé par les Nations Unies à quelque 25 millions de dollars par an. L'armée somalienne et l'AMISOM ont pris le contrôle de tout Baraoué, a dit un responsable militaire somalien, Abdi Mire. Les Chebab ont fui, mais un de leurs commandants, Sheikh Mohamed Abu Abdallah, a averti que la perte de cette ville n'empêcherait pas leurs militants de poursuivre leur lutte contre les forces somaliennes et l'AMISOM. La chute de Baraoué intervient un mois après la mort de leur chef suprême, Ahmed Abdi, dit Godane, qui a été tué début septembre par une frappe aérienne américaine. Malgré ces revers, les Chebab contrôlent de vastes zones rurales en Somalie et selon les analystes, ils sont toujours une menace pour la sécurité de la région.
Résultat des élections locales au Congo-Brazzaville, le Parti congolais du travail du président Denis Sassou Nguesso et ses alliés conservent l'intégralité des conseils départementaux et des conseils municipaux des grandes villes du Congo, selon les résultats officiels des élections locales publiées aujourd'hui. Le président de la République mauricienne, Kailash Pouriag, annonce la dissolution de l'Assemblée nationale qui pourrait déboucher sur des élections avant la fin de l'année.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retour à l'apaisement à Hong Kong après une semaine de perturbations et de revendications pro-démocratie. Les fonctionnaires ont pu reprendre le travail aujourd'hui. Jacques Aristide.
Dans le quartier d'Admiralty, où se trouve le siège du gouvernement, les protestataires n'empêchaient plus ce lundi les agents de l'État d'accéder au complexe, même si des barricades bloquaient encore l'entrée. Ce fonctionnaire, Tim Fung, dit respecter les droits des manifestants d'exprimer leur colère, mais ajoute-t-il, ils doivent également respecter les droits des employés qui veulent se remettre au travail. De dizaines de milliers la semaine dernière, les protestataires n'étaient plus que quelques centaines dans la rue. Les autorités leur avaient sommé de quitter les lieux ce lundi afin de permettre la réouverture des bureaux, des écoles et des commerces. Ce manifestant, Oscar Leung, s'excuse auprès du public et souhaite une solution pacifique à la crise. Les leaders de la contestation ont affirmé se préparer à d'éventuels pourparlers avec Carrie Lam, la numéro 2 du gouvernement de Hong Kong.
En Syrie, les combats pour le contrôle de la ville de Kobané, limitrophe de la Turquie, se poursuivent, Gabi.
Les milices kurdes ont ralenti l'élan des djihadistes de l'État islamique ce week-end, tuant au moins 16 militants. Mais 11 Kurdes sont également morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres. Pendant ce temps, en Irak, les frappes de la coalition ont fait au moins 25 morts dans les rangs des islamistes, à Zoumar, environ 70 km au nord-ouest de Mossoul.
L'OTAN se dit préoccupée par les multiples violations du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, qu'elle attribue indirectement aux séparatistes pro-russes. Selon le secrétaire général Jens Stoltenberg, il est important pour la Russie d'user de toute son influence pour que les séparatistes respectent la trêve. Au moins une personne est morte aujourd'hui à Donetsk lors d'un bombardement.
Sous la direction de l'Australie, les opérations de recherche du vol 370 de Malaysia Airlines ont repris aujourd'hui dans le sud de l'océan Indien. Elles avaient été suspendues durant 4 mois. Le Boeing 777 a disparu il y a 7 mois lors d'un vol entre Kuala Lumpur et Pékin. Il avait 239 personnes à bord.
Au Brésil, Dilma Rousseff, qui aspire à un second mandat, arrive en tête du premier tour de la présidentielle. C'était hier, avec 42% des voix. Elle devra affronter le social-démocrate Aécio Neves dans un second tour le 26 octobre. Neves a obtenu 34% des suffrages.
Coup d'envoi de la remise des prix Nobel cette semaine. Ce lundi, celui de médecine a été attribué à un couple norvégien et un confrère américano-britannique pour leur recherche sur le GPS interne du cerveau. Félix Yepassis-Zembro.
Le jury a récompensé John O'Keefe et un couple de Norvégiens, May Britt et Edvard Moser, pour leur découverte de cellules qui constituent un système de positionnement. Ces recherches qui concernent notre sens de l'orientation pourraient faire avancer notre connaissance de la maladie d'Alzheimer qui fait perdre la mémoire spatiale. Monsieur O'Keefe est un pionnier, chercheur à l'Institut de neurosciences cognitives de l'Université College de Londres. En 1971, il avait découvert le premier composant de ce système de positionnement, un type de cellule nerveuse dans l'hippocampe, une région du cerveau qui joue un rôle central dans la mémoire et le positionnement spatial. En 2005, ses recherches ont été complétées par le couple Moser. Ils ont identifié un autre type de cellule nerveuse qui permet de se positionner et trouver son chemin. Les Moser sont le cinquième couple à recevoir un Nobel. Le prix de médecine ouvre la saison des Nobel. Il doit être suivi des prix de physique mardi, la chimie mercredi, le prix de littérature jeudi, la paix vendredi et celui d'économie lundi prochain.
Et ici aux États-Unis, le mariage homosexuel ne sera pas interdit dans l'Indiana, l'Oklahoma, l'Utah, la Virginie et le Wisconsin. Ainsi en a décidé la Cour suprême. Les 9 sages n'ont pas fait de commentaires en rejetant l'appel de ces 5 États. Cette décision a pour effet la légalisation de l'union des gays et lesbiennes dans 30 États américains et dans la capitale fédérale, Washington DC. Cependant, la question n'est pas résolue à l'échelle nationale. Voilà pour le journal. Au micro, Morgane Guiriec et Chérubin Dorcil. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. On passe à la partie magazine de notre émission. Et nous partons au Togo, Gabi.
Les évêques et les pasteurs ont appelé au début de ce mois toute la classe politique togolaise à relancer le processus des réformes constitutionnelles afin de limiter le nombre de mandats présidentiels. Le pays, on se le rappelle, doit tenir un nouveau scrutin présidentiel en 2015. Idrissa l'a joint à Lomé, le pasteur Edo Tomi.
Nous estimons que depuis le 30 juin dernier où le projet de loi a été rejeté par la majorité à l'Assemblée nationale sur la réforme, la situation ne quitte pas guère et que le lendemain est fermé incertain pour le Togo. Donc nous avons demandé à tous les acteurs, surtout le gouvernement, à réintroduire très rapidement cette loi à l'Assemblée nationale pour pouvoir permettre aux réformes d'être faites et le Togo de se relancer sur la voie démocratique parce que sans cela, les élections ne seront pas bien organisées.
Et pourquoi la majorité a décidé de rejeter ce projet de loi?
Ça peut être des calculs politiques. Cela fait très mal parce que sinon nous considérons que les réformes depuis l'accord politique global de l'OME, les réformes ont été au centre de cet accord et faire un calcul aujourd'hui pour ne pas faire ces réformes, je crois que ce serait une mauvaise volonté de la part du pouvoir. Toujours est-il que le même pouvoir clame fort qu'il veut organiser les élections libres et démocratiques. Nous estimons que si tel est le cas, les réformes doivent être faites et le pouvoir doit entendre raison très rapidement.
Et au cœur de ce débat, bien sûr, la limitation des mandats présidentiels.
Oui, justement. Il y a en démocratie, je crois, dans tous les pays africains, il y a la limitation du mandat présidentiel. Le mot de scrutin a deux tours. Donc, c'est des réformes qui sont aujourd'hui très indispensables pour une élection présidence est libre, démocratique et transparente. On ne peut pas s'en passer de ces réformes et vouloir organiser une élection qui soit digne et crédible. Autrement, on est encore dans des contestations en contestation, ce qui, au fait, ne donne pas toujours Togo dans le Conseil des Nations, puisque le Togo reste le seul pays qui, véritablement, n'est pas engagé dans la voie de la démocratie. Donc, nous estimons que ce soit la limitation du mandat présidentiel, que ce soit le mode de scrutin à deux tours, c'est très indispensable.
C'était le pasteur Edo Tommy à Lomé, au Togo.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, nouveau point sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Au menu, une série de reportages sur les drames humains que provoque la crise. Faites-nous part de vos témoignages sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Et nous partons au Sénégal où des éducateurs ont recours aux technologies de l'information et de la communication pour promouvoir l'alphabétisation chez les femmes. L'expérience porte ses fruits à tel point que l'UNESCO veut l'étendre à au moins 6 autres pays africains. Pour voir comment ça marche, la correspondante de La Voix de l'Amérique, Christine Roby, s'est rendue à Pikine, dans la banlieue de Dakar. Son reportage est relaté par Jacques Aristide.
Mariama Dafé est toute concentrée. Elle apprend à lire, à écrire et à compter. Un programme d'études qu'elle a entamé chez elle il y a un an à l'âge de 39 ans et qui est offert par l'UNESCO de concert avec le ministère sénégalais de l'éducation. Les cours sont diffusés quotidiennement à la télé. Pour les femmes qui y prennent part, ce type d'enseignement interactif à distance les rend plus indépendantes. Mariama Dafé.
J'ai un téléphone portable et désormais je peux moi-même lire les messages que je reçois et rédiger ce que je veux envoyer. Avant, il me fallait trouver quelqu'un pour lire ou écrire mes messages.
Les cours, divisés en 3 modules par semaine, sont très pratiques, selon Mariama. Elle peut ainsi continuer à travailler à temps plein et à prendre soin de ses 3 enfants. Le Sénégal dispose de fonds limités dans le cadre de son programme d'alphabétisation. Les cours à la maison ne coûtent pas cher et sont faciles à gérer. Certaines femmes préfèrent toutefois se retrouver dans une salle de classe pour étudier soit en wolof, soit en français. Les femmes représentent au moins 2/3 de tous les adultes analphabètes au Sénégal. Mais pour Astou Keïta, également âgée de 39 ans, il n'est jamais trop tard pour se rattraper.
Mes enfants se moquent de moi. Ils pensent que c'est drôle de commencer à apprendre à cet âge. Mais lorsque je fais des erreurs, ils me corrigent. Je suis très fière de moi et je n'ai rien à regretter.
Mamadou Diallo est éducateur. Il confie que le tableau d'affichage interactif suscite beaucoup d'intérêt chez ses étudiantes adultes.
Elles étaient très contentes. Elles étaient émerveillées et étaient pressées de découvrir. Quand je leur disais qu'attendez un peu, il faut qu'on fasse d'abord le travail au tableau avant de commencer l'éducation numérique. Elles étaient contentes de commencer ce travail et ça a été vraiment une joie pour ces femmes de découvrir vraiment les merveilles de l'informatique.
Mamendak Boup est trésorière de la petite affaire montée par ses camarades de classe. Elles achètent des produits de consommation en gros et les revendent à profit. Des notions d'affaires qu'elles apprennent en classe.
Nous avons commencé le business avec environ 100 dollars. Nous allons au marché pour acheter les oignons en gros à 1 dollar le kilo et nous les vendons pour 1 $20 le kilo. Nous nous partageons le profit et retournons le dollar restant au groupe. C'est quelque chose que nous répétons à chaque fois. Jusqu'à présent, nous avons pu récolter 700 dollars.
Les cours dispensés dans le cadre du programme de l'UNESCO sont gratuits et les participantes peuvent les suivre aussi longtemps qu'elles veulent. Après le Sénégal, ce programme d'études sera prochainement étendu aux femmes du Kenya, du Nigeria et de la Gambie.
La Voix de l'Amérique au Sénégal sur Top FM à Dakar et Radio Al-Faïda à Kaolack.
Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Côte d'Ivoire, journée nationale du cacao et du chocolat ce week-end à Abidjan. Pendant 48 heures, planteurs, transformateurs et politiques ont échangé sur les bienfaits du chocolat pour la santé et les opportunités offertes aux acteurs économiques en matière de transformation du cacao. D'Abidjan, voici le reportage de notre correspondant Germaine Ney.
Les échanges à Abidjan ont porté sur la transformation sur place de cette matière qui, jusqu'à ce jour, n'a pas connu de progrès considérable. Mais avant, il s'est agi de la qualité du produit qui constitue pour tous ceux qui ont fait le déplacement une préoccupation. Préoccupation qui ne peut trouver une solution qu'avec les planteurs qui égrènent un chapelet de difficultés. Bernard Kwame est le président de la coopérative agricole de Béga Diaby.
Qu'un accent particulier soit mis sur les coopératives pour les appuyer véritablement, pour que les coopératives qui sont les instruments du développement des producteurs puissent avoir sa place pour pouvoir pousser le développement en milieu rural. Nos véritables problèmes, c'est les conditions de travail même de ces structures coopératives qui ne sont pas tout à fait sécurisées.
Kwakuja, la coopérative Fiedifouin, Adaloa, qu'ils améliorent les voies de nos champs.
Cette rencontre a été ponctuée de séances d'explications et de conférences. Répondant aux planteurs par rapport à leurs sollicitations, Koulibaly Sangafoua Mamadou, ministre ivoirien de l'agriculture, a affirmé que les entraves sont réelles. Cependant, toutes les difficultés ne pourront pas être réglées par l'État. Les structures de transformation du cacao ont promis jouer leur partition. Jean-Marie Delon.
Allons continuer nos efforts en faveur du développement des plantations. Je pense qu'on accueille avec joie l'invitation qui a été lancée par le Premier ministre de s'asseoir à une table de négociation et de discuter avec tous les transformateurs locaux et toutes les parties prenantes pour que, dans l'intérêt de tous, nous puissions parvenir à augmenter la part de transformation locale.
Benjamin Bessy part donc depuis le producteur de la fève pour arriver au consommateur du chocolat. Et évidemment de faire aussi le lien entre le monde des producteurs et l'industrie et le consommateur. Donc c'est ce qui fait un peu l'originalité de cette journée, c'est de renforcer le maillon donc, côté production qui est toujours de la fève de qualité. Et donc toutes les actions qui peuvent être menées pour accompagner le planteur, accompagner la coopérative à se structurer sont des actions qui sont bienvenues.
La Côte d'Ivoire est un pays à vocation agricole, mais le cacao joue un rôle prépondérant dans plusieurs domaines, comme l'atteste l'analyse du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan.
L'importance de la filière café-cacao dans l'économie ivoirienne se caractérise notamment par une population estimée à 800 000 producteurs, une contribution au produit intérieur brut de 15% et une contribution aux recettes d'exportation de 40%. En outre, la Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao au monde, a une production annuelle qui oscille en moyenne à 1,5 million de tonnes, soit plus de 40% des parts du marché. Cette année, la production est supérieure à 1,7 million de tonnes.
Germain Dri, Abidjan, la voix de l'Amérique.
La famine à l'horizon au Soudan du Sud. Les agences humanitaires prévoient qu'en raison des combats, le plus jeune État de la planète pourrait faire face à une pénurie alimentaire sans précédent. Les organisations internationales d'aide préconisent donc une assistance sans délai. Jean-Roger Billon.
Dans un rapport intitulé « De la crise à la catastrophe », les humanités avertissent que plus d'un million de personnes pourraient souffrir gravement de la faim au cours des trois premiers mois de 2015 au Soudan du Sud. La poursuite des combats à la prochaine saison sèche pourrait mettre encore plus de pression sur les populations qui souffrent déjà du conflit qui dure depuis 10 mois. Kathleen Routledge est la directrice pays de Tearfund, l'une des organisations à l'origine du rapport.
There won't be a harvest. There won't be the same level of harvest in October, November as there should be.
Il n'y aura pas le même niveau de récolte en octobre et en novembre comme prévu. Ils vont subir 7 mois de sécheresse sans nourriture, sans réserve, les marchés fermés, les commerçants tués et les routes qui sont bloquées.
Le rapport indique que plus de 1,5 million de personnes ont déjà fui leur maison en raison du conflit. Anne Salva Kiir, président du Soudan du Sud, et Riek Machar, son ancien vice-président. Une réponse humanitaire à elle seule ne suffira pas, sans respect d'un cessez-le-feu entre les belligérants, selon Kathleen Routledge.
Right now, people are expecting us to already be in the famine stage, but it has been staved off.
En ce moment, la famine aurait pu s'installer. Nous avons pu l'éviter. À l'heure où nous parlons, la mort et la souffrance des enfants auraient pu se mesurer à une grande échelle. Cela veut dire qu'on peut éviter d'en arriver là.
Selon l'ONU, 400 millions de dollars sont nécessaires pour répondre aux besoins de sécurité alimentaire au Soudan du Sud cette année. Les appels à l'aide se multiplient, mais tous les accords conclus entre Juba et les rebelles n'ont jamais été respectés. Les derniers pour parler de paix sont toujours dans l'impasse. Ils ont été ajournés selon l'IGAD, l'organisation sous-régionale qui assure la médiation, et pourraient reprendre éventuellement à la mi-octobre.
On passe tout de suite à l'actualité sportive avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
On va commencer ce soir en Espagne.
Oui, donc il s'agit des performances des joueurs africains dans les championnats européens, donc en Espagne en l'occurrence. Le Camerounais Stéphane Mbia a conduit Séville, son club, donc, à un large succès face au Deportivo La Corogne dimanche, 4-1, inscrivant 2 des 4 buts andalous, le premier sur une tête piquée après un corner et le second à la réception d'une passe en retrait dans la surface avec une reprise parfaite du pied gauche.
Et à Malaga,
l'attaquant de Grenade, Youssef El Arabi, avait lui aussi mis les siens sur la voie du succès en profitant d'un ballon cafouillé par le gardien camerounais Carlos Kameni. Mais le but plein d'opportunisme du Marocain au bout seulement d'une 40 secondes de jeu n'a pas suffi puisque Malaga s'est finalement imposé 2-1.
Et il semble que Yaya Touré fait parler de lui en Angleterre.
Oui, il veut faire taire les critiques. Yaya Touré, le milieu international ivoirien, a marqué donc son premier but en championnat anglais avec Manchester City face à Aston Villa. 2-0 pour City donc. Et Yaya Touré qui inscrit donc son premier but du championnat.
Et Papi Cissé est de retour aux affaires.
Oui, il est de retour aux affaires après une longue blessure et il a fait en sorte que ça se voit. Double buteur contre Hull il y a 15 jours. Le Sénégalais de 29 ans a remis ça à la 38e et à la 115e minute contre Swansea. 2 buts partout et le voilà maintenant avec 4 buts en 3 matchs. Son premier but, Chérubin, une déviation à ras de terre dans un angle fermé, notamment un modèle. Le deuxième, une frappe plus acrobatique que puissante face au but, n'est pas mal non plus.
Autre Africain a enregistré une belle performance, c'est Wilfried Bony.
Oui, l'attaquant international ivoirien, exclu il y a 2 journées, a enfin ouvert son compteur contre Newcastle à son 8e match de la saison, mais cela n'a pas suffi pour décrocher la victoire 2-0. À la 17e minute, il a ainsi brillamment conclu un joli 1-2. Ensuite, il a encore hérité de 2 frappes au plein axe sur des centres à la 38e et 73e minute, mais il est alors tombé sur un excellent gardien de but qui a repoussé le danger.
Et on conclut avec Gervinho.
Oui, Gervinho, l'homme à la coiffure spéciale, l'attaquant international ivoirien, donc, a connu une soirée frustrante sur la pelouse de la Juventus Turin. Passeur décisif sur le but d'Iturbe, il n'a pas empêché le revers des siens lors du choc de la Serie A. 3-2.
Voilà, un coup d'œil sur les joueurs africains en championnat étranger. Merci Bagassi Koura.
Merci Chérubin, à bientôt.
Cette émission touche à sa fin et comme tous les soirs, on termine en musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. Beyoncé fait appel à Nicki Minaj pour le remix de son titre Flawless, extrait de son 5e album éponyme sorti en décembre dernier. Cette version alternative bénéficie désormais d'un support visuel qui reprend les images tournées durant le passage du On The Run Tour de Beyoncé et Jay-Z au Stade France le 12 et 13 septembre dernier. It's the Beyonce, yo, Beyonce in that lingerie on that Chardonnay, scoring touchdowns on your runway. I'm Texas forever like Bombay and I'm Rambo in the yo. I'm Billy and Rick like John Jack, I'm Camo in the yo.
Après avoir été sollicité par Britney Spears sur le remix de son tube Till the World Ends en 2011, c'est au tour de Beyoncé de faire appel à Nicki Minaj.
Oui, Morgan, Queen Bee a demandé à la rappeuse de poser son flow sur un remix de sa chanson Flawless. La nouvelle version de Flawless, un titre produit par Hit Boy et initialement partagé avec la Nigériane Chimamanda Ngozi Adichie.
Flawless, Beyoncé featuring Nicki Minaj. Merci Roger.
De rien Morgane, au revoir.
Roger Muntou que vous retrouvez tous les soirs dans le RM Show à 20h temps universel.
Tell them, say I look so good tonight. Right. Say I look so good tonight. Right. I wake up looking this good. And I wouldn't change it if I.
Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yemi Obadjemi a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Diriek
et Chérubin Orsi.
À demain.
Rod. Looking Trinidadian, Japanese and Indian.